are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer enfin. Femmes puissantes, saison 2, 4 nouveaux numéros, avec la Beyoncé française, une reine de Paris, une maître du monde économique. Et ce samedi, c'est une colonelle de gendarmerie qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femmes puissantes, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec la colonelle Karine Lejeune, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour, bienvenue à la gendarmerie de l'Essonne.
Merci, Karine Lejeune.
Tout à fait.
Vous m'accueillez à l'entrée.
Mais bien sûr.
Bah, donc, on est où là? On est au siège.
Alors,
là
vous
où
êtes...
vous commandez les...
Tout à fait. Vous êtes au siège de la gendarmerie de l'Essonne, donc on appelle ça un groupement de gendarmerie. Et donc, moi, je gère depuis cette caserne et cette ville les 745 gendarmes et 420 réservistes opérationnels du département.
Donc, c'est votre bureau, quoi. Là, on rentre dans votre bureau.
Exactement. On va rentrer dans mon bureau et puis on va surtout passer dans les différents services et unités qui viennent appuyer les différentes brigades du département.
Ok, vous nous montrez. Je remets bien mon masque parce que devant un gendarme, il ne s'agit pas de se faire
attention,
verbaliser.
135 euros. On y va.
Il l'appelle Madame la Colonelle, et même si elle n'est pas bien grande, je vous assure qu'elle leur impose immédiatement le respect. Pendant longtemps, les femmes étaient considérées comme des intruses dans la gendarmerie. Aujourd'hui encore, elles ne sont que 9 en France à avoir le grade de colonel. Elle fait sa petite révolution féministe dans la caserne. Elle est aussi une pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors y a-t-il une manière féminine de cheffer? Faut-il se viriliser pour imposer son autorité? Karine Lejeune a des idées très claires sur le sujet. Elle est notre invitée.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Retour de service?
Oui.
Ou départ en service?
On va repartir.
On va repartir, on est entre deux enfin.
Et c'est donc votre chef, Karine Lejeune?
C'est ça, absolument. C'est notre patronne.
Est-ce que le fait que ce soit une femme change quelque chose?
Absolument pas, en aucun cas.
Pour personne autour de vous, là, on est entouré de...
Il n'y a rien de perturbant ou de choquant là-dedans. Ça pose aucun problème.
Vous ne voyez pas son genre ou son sexe, c'est ça? C'est la chef.
Il y a un uniforme, c'est la chef, c'est colonel. C'est pas mon colonel, c'est colonel.
Il n'y a pas une manière féminine d'être chef, c'est ça que j'essaye de comprendre.
Oui, à mon sens, c'est différent, parce qu'une femme est différente d'un homme. La colonelle sait être ferme quand elle en a besoin, et puis elle sait se faire écouter également, et puis elle sait être à l'écoute de son personnel.
On va voir si les femmes ont toute leur place dans la gendarmerie. C'est une des questions que je vais vous poser. On y va?
On y va.
Merci beaucoup.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Colonel Karine Lejeune, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante?
Il faudrait déjà se poser la question de savoir ce qu'est une femme puissante. Une femme puissante, déjà, ça passe par le regard des autres. Après, comme une femme puissante, c'est pour moi quelqu'un qui va déployer une certaine force, une force intérieure pour pouvoir agir, interagir et avoir un effet concret sur son environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Peut-être que certains de mes pairs, certains de mes chefs, certains de mes gendarmes considèrent peut-être que j'ai une certaine puissance parce que dans les fonctions qui sont les miennes, j'espère avoir cette faculté de parfois faire bouger les lignes et d'imprégner ma marque.
Tout à l'heure, votre lieutenant disait une femme et un homme, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une manière féminine d'exercer son autorité?
Je suis pas certaine. La particularité d'un chef militaire, parce que c'est ce que je suis, c'est que il a l'exercice de l'autorité et il commande. Et commander, c'est pas inné. Commander, ça s'apprend. Donc, si les hommes peuvent l'apprendre, les femmes peuvent l'apprendre. Et personnellement, c'est peut-être plus difficile pour une femme parce que petits, les garçons, on leur a appris qu'ils pouvaient avoir de l'autorité, qu'ils pouvaient avoir de la force, qu'ils pouvaient s'imposer. Les filles sont un peu plus en retrait et on leur revoit souvent une image de douceur, d'empathie, qui ne correspond pas à forcément. Exactement. La particularité, c'est que le chef militaire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, il est avant tout chef. Vous avez croisé des personnels qui vous ont dit « bon, bah, c'est la colonelle, ça aurait pu être le colonel, avant c'était le colonel, c'était un homme ». Ça fait pas de différence pour nous, et c'est vrai. Et ça, je l'ai toujours ressenti.
Vous avez ressenti qu'ils ne vous regardaient ni comme une femme, ni comme un homme, mais comme un chef.
Oui, parce qu'ils attendent un chef. Ils attendent le chef militaire, et le chef militaire, c'est celui qui guide, c'est celui qui donne la mission, c'est celui qui permet de faire adhérer à cette mission. Et là, franchement, qu'on soit homme ou femme, ça n'a pas tellement d'importance en fait.
On vous appelle Madame le Colonel ou Madame la Colonel ?
Alors, j'ai fait ma mue depuis quelques années. Maintenant, je suis attentive au fait qu'on m'appelle Madame la Colonel Le, donc avec deux LE, commandante de groupement.
Pourquoi vous avez fait votre mue ?
Parce que pendant longtemps, finalement, je suis partie du principe que c'était une fonction, c'était un grade, et que donc il n'y avait aucune raison de le féminiser. En plus, bon, c'est facile de se retrancher derrière le fait que la chef, c'est pas très joli. Donc pendant très longtemps, j'ai tenu ce discours-là. Et puis en fait, j'ai fini par changer d'optique, tout simplement parce que sans féminisation des fonctions, des grades, vous continuez à perpétuer cette invisibilité. Des femmes dans les postes de commandement ou les postes de responsabilité. Et puis, également, sur la colonelle, il n'y avait rien qui m'agaçait plus d'entendre « Oui, mais la colonelle, c'est la femme du colonel. »
Ah bah justement, on l'écoute.
Madame la colonelle.
Je conduis vite, c'est vrai.
Mais non, mais...
Si, mais sans infraction grave au code de la route.
Sans aucune infraction. C'est moi qui ai péché par orgueil.
Oh non, non. Oublions ça, voulez-vous.
Oh, merci.
Je suis Josepha.
Je suis Ludovic.
Je suis Josepha.
Voilà, Madame la Colonelle, c'est elle, c'est Claude Jansac. C'était la femme de Louis de Funès dans toute la série Le Gendarme de Saint-Tropez. Là, on a passé le gendarme se marie. C'est pas vous, c'est Madame la Colonelle, c'est la femme du colonel.
Oui, mais c'était il y a 40 ans, ou il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on est en 2020, et la femme du colonel, ça fait bien longtemps qu'elle fait sa propre carrière. Et que la place du colonel, c'est une femme qui l'a prise. Donc je pense que c'est important aussi, cette visibilité, pour faire changer les mentalités. Et effectivement, au début, je l'ai entendu, la colonelle, c'est la femme du colonel. Depuis, je l'entends plus.
La vision du gendarme et des gendarmettes de Louis de Funès, ça vous fait toujours marrer ou c'est complètement dépassé?
Oh, c'est une image d'Épinal. Alors, c'est une image qui est plutôt finalement sympathique parce que le chef Cruchot, il est un peu psychique avec son chef. C'est un gendarme un peu rigide, voire psychorigide. Donc, on peut y retrouver certaines anciennes générations, mais il est plutôt sympathique ce gendarme. Oui. Donc, on y est attaché, même si effectivement, la gendarmerie du 21e siècle, elle est à 100 000 lieues du gendarme
de Saint-Tropez. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, les lieutenantes, on les appelait les dindes.
Quand j'étais à l'école des officiers, effectivement, les camarades que j'avais avec moi, ils étaient un peu taquins. Hein. Les autres personnels féminins qui étaient dans la promo, ils les appelaient les dindes. Et moi, comme je m'entendais bien avec eux, j'étais la bonne copine, ils m'aimaient bien. Moi, j'avais pas ce surnom-là. Moi, j'avais droit au surnom de gonzesse. Ah. Et dans leur bouche, c'était déjà la catégorie aussi.
Très respectueux.
Ouais, très respectueux. Moi, je n'étais qu'une gonzesse. J'étais pas,
pas une dinde. C'est vrai qu'au début de votre carrière, un de vos supérieurs vous a dit les femmes sont incongrues dans la gendarmerie.
C'était effectivement une intervention qui avait été faite à l'école des officiers de la gendarmerie. On était une très grosse promotion, on était 250 officiers. Dans cette promotion, on était 5 personnels féminins. Et effectivement, un général était venu pour nous expliquer ce qu'il attendait sur le terrain des futurs jeunes lieutenants que nous étions. Et il avait eu cette phrase « Mais pour moi, les femmes sont incongrues en gendarmerie ». Et donc effectivement, il avait expliqué que voilà, les femmes n'avaient pas vraiment leur place sur le terrain. Enfin, il avait cette vision-là, et quelques mois après, je suis affectée sous ses ordres, pas direct, mais c'était mon N+2. Et donc, il me dit, vous étiez présente quand j'ai tenu ces propos. Bah oui. Il me dit, je le pense. Je dis, c'est dommage. Mais bon, quand vous êtes jeune lieutenante, qu'est-ce que vous voulez dire face à un général qui vous dit, écoutez, moi, ça me fait mal de signer des congés maternité. Un, c'est pas une maladie. Et deux, de toute façon, maintenant, les femmes sont là depuis 1983, il va falloir faire avec.
Plus tard, vous l'avez revue, vous lui avez rappelé ses propos ou non?
Alors, c'est drôle parce que cette anecdote, effectivement, je l'avais racontée dans un article de l'Express. Et donc, en 2018, quelques semaines avant que je prenne le commandement de l'Essonne, je reçois un appel téléphonique, un message sur mon téléphone de service. Et j'entends, c'est le général. Vous vous souvenez peut-être de moi. J'ai vu un article de l'Express où vous relatez une anecdote qui me concerne. J'aimerais en parler avec vous. Je me suis dit, là, je vais me faire engueuler. Donc, je l'ai rappelé immédiatement. Et effectivement, on a échangé. Et ce qui m'a marqué, c'est là où c'est intéressant. Il m'a dit, je ne pensais pas que vous en souveniez. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? J'étais jeune lieutenante, je sortais d'école. Et mon chef, avec des étoiles, me dit que les femmes, c'est-à-dire moi, je suis incongrue en gendarmerie. Bien évidemment que ça m'a marqué. Moi, je l'ai pris comme une certaine violence. J'ai dit, maintenant, ça m'a pas empêchée. Et puis, c'était une autre époque. Depuis, on a évolué. Les femmes sont partout maintenant en gendarmerie, dans toutes les unités. Et finalement, quelques heures après cet échange téléphonique, il m'a envoyé un SMS en me souhaitant bonne chance et bonne réussite dans mon commandement et en signant son SMS, le général incongru. Donc j'ai trouvé ça plutôt mignon.
Donc il s'est pas excusé, mais il s'est excusé.
Mais oui, pour moi, oui.
Le ZAP. Le lieutenant-colonel Karine Lejeune, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale.
À 29 ans seulement, elle est promue lieutenant. Elle est la seule femme parmi les 30 élèves de sa promotion.
Je vais vous faire une petite confidence. J'étais un peu inquiète de savoir comment vous alliez réagir en voyant ma tenue de gendarme.
Alors ce soir, dans cette édition, Karine Lejeune, porte-parole de la gendarmerie nationale, elle-même lieutenant-colonel. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Je ne m'étais pas forcément imaginée arriver à ce niveau-là.
Karine Lejeune occupe le grade le plus prestigieux de la gendarmerie.
C'est une grande fierté, une grande responsabilité aussi, j'en suis consciente.
Mais aujourd'hui, c'est elle qui occupe le bureau du chef.
Cette action, elle doit se faire ensemble. Force de l'ordre et citoyens main dans la main pour pouvoir construire cette société où toutes les femmes se sentiraient en sécurité.
Les petites filles peuvent rêver. Lorsqu'elles seront grandes, la gendarmerie aura peut-être effectué sa révolution sexuelle.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Karine Lejeune, vous dites aujourd'hui les femmes sont partout en gendarmerie, alors... Bon, c'est mieux que quand vous avez commencé il y a 20 ans où il y avait que 1% de femmes, mais c'est pas dingue non plus. Il faut savoir, je pense que les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, jusqu'en 1998, c'est-à-dire il y a 20 ans, jusqu'en 1998, il y avait un quota qui bloquait à 7% le nombre de femmes dans la gendarmerie. Impossible d'avoir plus que 7% de femmes chez les gendarmes. Heureusement, ça s'est féminisé. Écoutez ce reportage de TF1 qui date de 1999, quelques mois après que le gouvernement ait fait sauter ce quota de 7% de femmes, écoutez.
Ces quotas ont disparu depuis quelques mois et je pense que d'ici quelques années, nous aurons une proportion beaucoup plus importante de femmes dans la gendarmerie.
C'est une nouveauté hein, et comme toute nouveauté, il faut voir sur le terrain. Hein. Vous avez des femmes maintenant qui sont officiers de gendarmerie, hein, qui mènent des travaux aussi bien que les hommes, c'est tout.
Même si les femmes effectuent les mêmes tâches que les hommes, il leur faut malgré tout une motivation plus forte. Car il est pour elles souvent très dur de concilier vie de famille et vie professionnelle.
Est-ce qu'il y a encore des réticences pour les femmes à s'engager dans le métier de gendarme? Parfois on dit que c'est un métier trop physique, il vaut mieux être un homme pour procéder à une arrestation, pour affronter des manifestants Black Blocs par exemple, il vaut mieux être un homme qu'une femme. Est-ce que quand vous entendez ces arguments-là, ça vous fait doucement rigoler ou il y a du juste là-dedans?
Je pense que c'est pas ça qui éventuellement réfrène les ardeurs des femmes à venir dans les métiers des forces de sécurité, et notamment la gendarmerie. Je vous prends l'exemple, il y a à peu près 2 ans, j'étais intervenue devant des étudiants de Sciences Po pour justement présenter la gendarmerie et puis finalement inciter les uns et les autres, pourquoi pas, à venir rejoindre l'institution. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de mon intervention, j'ai 3-4 jeunes femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit c'est intéressant parce que on s'est rendu compte que vous étiez mère de famille, que vous étiez mariée et que finalement vous arriviez à concilier cette vie professionnelle de terrain et cette vie familiale, et finalement on se dit que c'est peut-être des métiers dans lesquels on pourrait venir parce que on peut tout concilier et on peut tout faire. Et je pense que c'est ça.
C'est ça la réticence encore, c'est pouvoir concilier une vie de terrain qui est très dure, qui est très dense, et une vie de famille. Oui. C'est ça qui bloque les filles à votre avis.
Moi, je pense que c'est ce qui fait encore peur. Au-delà de cette image que l'on arrive à gommer de plus en plus, mais qui reste encore un peu ancrée chez certains ou certaines, que les métiers de sécurité sont des métiers d'hommes. J'ai toujours mal à mes oreilles quand j'entends que je fais un métier d'homme, parce que je fais pas un métier d'homme. Je fais un métier d'autorité, je fais un métier de sécurité, mais je ne fais pas un métier d'homme.
Pardon d'être un peu cash, mais quand vous êtes face à quelqu'un qu'il faut arrêter et qui fait 2 mètres, et que vous êtes, parce que vous êtes petite et fine, et qu'il faut l'appréhender, le fait d'être une femme, d'avoir une force physique, alors pour le coup c'est un fait, qui est moindre que la personne qui est en face, c'est pas un problème.
Non, c'est pas un problème parce que nous sommes entraînés pour ça. Nous ne sommes jamais seuls. On est par 2, en binôme, par 3, en trinôme. On peut avoir du renfort. On a des moyens, ce qu'on appelle des moyens de force intermédiaire. On a un bâton de protection. On a le pistolet à impulsion électrique pour une personne qui est vraiment en crise et qu'il faut maîtriser. On a une arme à feu. Et on apprend à s'en servir. Donc, la force ne fait pas tout. Elle est même finalement très peu utilisée. Quand on en arrive vraiment à se battre au point, c'est vraiment que la situation a dégénéré.
Ça vous est déjà arrivé?
Non. Ça ne m'est jamais,
Vous êtes jamais battu au point?
Non. Jamais.
Est-ce que vous avez déjà utilisé votre arme de poing?
Non.
Vous avez jamais tiré pour de vrai?
Non. Non.
Donc vous savez le faire, mais vous ne l'avez jamais fait.
Je suis entraînée pour, comme tous les gendarmes, mais je ne l'ai jamais fait et j'espère ne jamais avoir à le faire.
Est-ce que vous avez parfois, quand vous faites un contrôle de police, vous prenez des remarques sexistes?
Alors oui, ça c'est. J'ai l'habitude de dire que pour les gendarmes féminins, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que à la fois les gens sont pas forcément très contents de se faire contrôler par un gendarme, mais en plus quand c'est un gendarme féminin, ça peut être effectivement encore plus problématique. Et bon, souvent vous avez les remarques. Alors bon, c'est un peu lourd hein, pour le coup. J'aimerais bien la fouille à corps, Madame la gendarme, passez-moi les menottes. Bon voilà, c'est effectivement bon.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que fouille à corps que vous avez entendu?
Non, en général, ça a toujours une connotation un peu sexuelle, voilà, soit par les gestes, soit par l'attitude.
Bon, le fantasme de la...
Oui, le fantasme de l'uniforme, bon, voilà, c'est comme ça.
Ça vous fait rire?
Oui, ça me fait rire parce que il vaut mieux en rire, finalement. Ça va jamais trop loin, en tout cas, si ça allait trop loin, de toute façon, là, par contre, on passerait sur une forme beaucoup plus répressive, on va dire.
Vous avez passé tous les concours de gendarmerie, Karine Lejeune, même les plus difficiles, notamment celui de l'école de guerre, où vous étiez la seule femme de votre promo. Vous avez sûrement dû entendre certains dire « elle a eu le poste de colonel parce que c'est une femme ». Pas pour ses compétences, mais parce qu'il faut bien mettre des femmes colonelles pour montrer que ça se féminise. Est-ce que vous l'avez entendu ça et qu'est-ce que ça vous fait?
Alors, je l'ai jamais entendu face à face, mais bien évidemment, il y a forcément parfois cette suspicion de discrimination positive. Forcément, elle est la seule dans la promotion de 30 gendarmes, un concours assez sélect. Forcément, c'est parce qu'il fallait une femme. Bon, sauf que il suffit de regarder la promotion avant, il y en avait pas, et la promotion après, il y en avait pas. Donc, a priori, c'était pas le sujet. J'y ai rarement fait attention et j'y fais encore moins attention maintenant que j'ai pris en maturité et également en expérience, parce que j'ai passé les mêmes concours que mes camarades masculins, j'ai le même parcours, j'ai été commandée les mêmes unités, j'ai eu des postes qui ont pas toujours été faciles. Le poste de porte-parole, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'auraient voulu, surtout
vous
dans
avez
le contexte.
Été porte-parole de la gendarmerie nationale.
Tout à fait.
Plein attentat.
Tout à fait.
De la France en 2015.
Et donc je pense que j'ai pas à rougir du parcours qui est le mien. Donc des esprits chagrins, on en a toujours. C'est pas très grave.
C'est pas très grave. Est-ce que sur le fond, vous êtes favorable aux quotas et à la discrimination positive? Est-ce qu'à un moment, il faut le faire pour aller plus vite et plus loin dans la féminisation?
c'est l'éternel débat. C'est-à-dire que si effectivement on ne tord pas un peu le système, on n'avance pas suffisamment vite. Pour autant, tordre un peu le système, c'est finalement créer une certaine suspicion vis-à-vis de, notamment de femmes, qui de toute façon y seraient arrivées parce qu'elles avaient les compétences.
À chaque femme, je demande traditionnellement de ramener un objet qui évoque leur puissance. Vous avez choisi quoi ?
Alors, j'ai choisi mon sabre. Il a deux particularités. La première, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est un symbole de puissance ou de pouvoir, puisque le sabre, c'est l'arme que l'on porte sur les cérémonies militaires, que portent les officiers sur les cérémonies militaires. Donc ce sabre, il est symbolique pour les officiers. Et puis celui-ci que j'ai fait faire en sortie de l'école des officiers de la gendarmerie, j'ouvre le fourreau, il a une particularité, c'est qu'il est gravé. Et il est gravé au nom de mes deux grands-pères, qui s'appelaient Lejeune et Bignan, et qui étaient tous les deux gendarmes.
Donc vous avez fait graver quoi ?
Donc j'avais mis à la mémoire des Lejeune et Bignan. Lejeune, c'est mon père, qui a fini major de gendarmerie, qui a fait toute sa carrière en gendarmerie mobile, qui est toujours là et qui donc est très fier de sa fille. Mon grand-père paternel, Lejeune, qui était gendarme en gendarmerie départementale, et mon grand-père maternel, Bignan, qui lui était gendarme en gendarmerie mobile.
Vos deux grands-pères étaient gendarmes, votre père était gendarme, mais c'est vous la plus gradée de la famille.
Oui, je suis le premier officier. Alors, la particularité, c'est que je suis la quatrième génération parce que j'ai un arrière-grand-père.
Ah oui.
Mon arrière-grand-père maternel était adjudant à cheval. Mais par contre, je suis le premier officier ou la première officière, parce que naturellement, je suis aussi la première femme. Et donc, ça, c'est une grande fierté pour moi. Et je pense que mes grands-pères, malheureusement, m'auront pas vu avec un uniforme de gendarme, mais ils auraient été fiers.
Ouais. Et votre père ?
Oh ben, lui est très fier, forcément.
Justement, dans un portrait de vous réalisé par TF1, voilà ce que votre père dit de vous.
Elle était déjà casse-cou. On allait faire du VTT, elle ramassait une gamelle. On avait ramassé une gamelle, on recommençait.
C'est un peu ça, mon père. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas mort, on avance encore.
Il dit elle a toujours été casse-cou, elle a toujours été casse-couille.
Non, casse-cou. Alors sûrement peut-être l'autre version aussi, c'est possible, mais non, très casse-cou. Alors dans un podcast comme celui-là, je devrais pas le dire, mais j'étais un peu garçon manqué. Je grimpais partout. Oui, effectivement.
Pourquoi il faudrait pas le dire dans un podcast comme celui-ci ?
Parce que les filles peuvent être aussi quand elles sont plus jeunes, pleines d'énergie, grimper aux arbres, courir partout, voilà. Et il n'y a pas de raison de les considérer comme des garçons manqués. Mais effectivement, j'avais ce côté un peu. On grimpe partout, on fait pas attention, et si on se fait mal, ben on se relève et puis on y va.
Il y a des femmes puissantes qui, quand elles accèdent à des postes de pouvoir, vont cacher leur féminité. Par exemple, la chirurgienne Chloé Berthelus m'a raconté qu'au début, pour pouvoir, quand elle était chef de service, eh bien elle ne mettait pas de talons, pas de maquillage, en pantalon tout le temps, surtout pas de jupe, pour se faire respecter à la fois des internes en dessous d'elle et des patients qui venaient se faire opérer. Et est-ce que vous aussi, vous avez eu tendance à des moments à gommer votre féminité, à vous viriliser pour pouvoir être crédible ?
Viriliser, non, mais se rendre un peu discrète, oui. On a un avantage quand même, c'est qu'on est en uniforme. Alors, l'uniforme n'est pas toujours complètement saillant pour les femmes en fonction. Ils ont souvent été dessinés pour des hommes, j'ai l'habitude de le dire, et parfois par des hommes qui ne devaient pas aimer les femmes, quand on voit parfois ce qu'on nous dessine. Mais,
ça veut dire quoi ?
On a eu la jupe culotte qui était absolument monstrueuse. On a eu, alors que les camarades masculins avaient un très beau manteau d'hiver pour les cérémonies, nous on avait un imperméable à la Colombo qui ressemblait absolument à rien. Enfin bon, voilà. Pour autant, effectivement, quand j'étais à l'école des officiers, j'étais pas maquillée, j'avais pas de bijoux. Alors j'avais déjà les cheveux courts avant de rentrer en gendarmerie, mais ils étaient un peu moins hirsutes que
là,
qu'avant.
Là, ils sont longs.
Oui.
Vous avez des bracelets. Vous êtes très féminine, là.
Voilà, et je l'assume complètement.
Vous voyez, en entrant dans votre grand bureau, je suis tombée sur ça. Enfin, mon œil a été captivé par cette petite chaussure à talons.
Ben, c'est une petite chaussure à talons dorée avec des petits strass. Et effectivement, c'est un objet de prestige qui a été réalisé il y a quelques années par le service communication du CIRPA. Et alors, j'aime
le service de communication des gendarmes réalise des petites statues de chaussures à talons.
En tout cas, il y a quelques années, je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça, mais effectivement, j'ai fait des pieds et des mains pour en récupérer une parce que je trouve ça totalement improbable et décalé, et donc ça me plaisait beaucoup. beaucoup. Et puis parce que j'aime beaucoup les strass. Ça, c'est mon côté un peu girly. Et donc, je trouvais génial ce petit objet qui a effectivement une flamme gendarmerie, mais qui est un petit talon haut.
Laisse-moi te consoler. Laisse-moi te rassurer. Laisse-moi t'encourager. C'est bon pour la santé. Tant que t'es sur ta lancée, tu peux pas t'arrêter si ce n'est de penser. On doit tous perdre pour gagner. Yaka, yaka, pioche, si tu peux plus jouer. Bref.
C'est Bluff de Bonnie Banane qui est dans la playlist d'Inter. On est toujours avec la colonelle Karine Lejeune.
Voilà, on est dans mon petit bureau qui n'est pas petit du tout. Ah non, il n'est pas du tout petit, effectivement.
Et là, c'est toutes vos médailles là ?
Alors, ça, ce sont des photos personnelles, oui, avec les deux directeurs généraux avec lesquels j'ai servi en tant que porte-parole. Et ensuite, effectivement, des photos lors de ma remise de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, puisque les deux fois, j'ai eu la très grande chance que ce soit le ministre de l'Intérieur qui me remette ces médailles.
Et c'était Bernard Cazeneuve à chaque fois ?
Alors, Bernard Cazeneuve pour l'ONM et pour la Légion d'honneur, c'était Monsieur Castaner. Après, naturellement, j'ai Marianne, puisque c'est un ici, voilà, liberté, égalité, fraternité, bien évidemment, c'est important.
En photo, ça c'est obligé.
Ça c'est obligé, le directeur général aussi, bien évidemment, dans tous les bureaux. Oui, bah bien sûr, c'est notre grand chef, donc c'est évident.
Ah, je vois, j'aperçois quand même vos enfants. Je me disais, est-ce qu'elle met les photos de ses enfants ?
Effectivement, je les mets pour très discrètement, parce que c'est important pour moi de les protéger. C'est important pour moi que ça reste personnel. Et donc, je les ai avec moi, c'est important. Mais par contre, je veux que ce soit que pour moi. Donc, ils ne sont tournés que dans ma direction.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Karine Lejeune, écoutez ce que disait dans un numéro précédent de Femme puissante, Christiane Taubira, sur la peur.
Mais la puissance d'une femme, je ne sais pas, c'est sa personne, sa personnalité, son rapport à la peur, quand elle a réussi à évacuer totalement, absolument la peur. Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment le seul qui soit capable de paralyser. Donc de neutraliser vos capacités, vos potentialités, votre réactivité, de vous empêcher, de vous interdire. Je pense que intuitivement, j'ai pressenti qu'il fallait vraiment m'en débarrasser. Il fallait vraiment construire ma liberté dans mon rapport à la peur. Mais voilà, ça fait un moment maintenant, j'ai réglé tous mes comptes avec la peur.
Vous aussi, vous avez réglé tous vos comptes avec la peur ou vous avez peur encore parfois ?
J'ai forcément une certaine appréhension de par le métier qui est le métier de gendarme, parce que c'est un métier dangereux, c'est un métier où on peut être pris pour cible, on vit avec, on le sait. Et cette appréhension, je l'ai notamment, je l'avais pas quand j'ai commencé en gendarmerie, je l'ai depuis que j'ai mes enfants. Cette peur que effectivement ce métier peut-être m'amène à l'inéluctable, mais je n'ai pas de peur et je l'ai jamais ressenti de cette manière-là.
La confrontation quotidienne avec la violence et avec la mort est inhérente au métier de gendarme. Par exemple, votre première semaine comme officier de gendarmerie, vous êtes immédiatement confronté à cela.
Oui, je me souviens de mon premier jour sur le terrain. Quand je suis arrivée, j'étais affectée dans l'Essonne déjà, sur la compagnie de gendarmerie de Palaiseau. Et le premier jour, je suis partie sur un vol à main armée dans une station-service. Et 2 heures après, je suis partie sur une découverte de cadavre. Un vieux monsieur qui s'était malheureusement tiré un coup de fusil de chasse dans la tête. Autant dire que voilà, pour la première découverte de cadavre, c'était un peu sanglant, et ça n'a pas arrêté pendant 3 ans à Palaiseau. J'étais un peu chat noir.
Vous étiez le chat noir de Palaiseau.
J'étais chat noir. Moi, j'avais plus personne qui voulait prendre les permanences avec moi.
Comment on se protège pour voir ces scènes de crime ou ces scènes de suicide ou ces scènes de mort très violentes?
Il faut réussir à prendre le recul, et le recul, il se prend avec les investigations que l'on a à faire, avec le travail que l'on doit faire. On est là pour une mission, pour déterminer ce qui s'est passé, pour rendre compte de ce qui s'est passé, et c'est finalement un peu ça qui nous protège. Parfois, les gens peuvent être choqués et on y fait attention, parce que les gendarmes entre eux peuvent parfois plaisanter un humour un peu noir, mais ça permet d'évacuer. Il faut vraiment avoir cette parole un peu libérée pour pouvoir évacuer parfois des situations qui sont difficiles. Maintenant, moi, il y a des affaires que j'ai oubliées, puis il y a des affaires que j'ai gardées en tête, et 20 ans après, je m'en souviens encore.
Il y en a une, par exemple.
C'était un 24 décembre. On a dû intervenir pour un petit de 24 mois qui s'était noyé dans la baignoire, alors que toute la famille était en train de s'affairer à faire le repas de Noël. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà pris son bain, et il avait voulu à nouveau repartir dans le bain avec son petit cousin qui était un peu plus âgé, et il s'est noyé. Bon, ben, un 24 décembre, quand vous intervenez, c'est compliqué. Et encore, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Je pense que à l'heure actuelle, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Et puis, le moment le plus dur de votre carrière, vous dites que c'est celui-là.
Bienvenue à tous. Il avait donc 44 ans. Il a donné sa vie pour sauver une otage. Arnaud Beltrame était un homme exceptionnel, on peut le dire ainsi. Il est devenu aujourd'hui un héros. Un héros auquel la France va rendre un hommage national. C'est un moment particulier qu'on s'apprête à vivre ensemble. Colonel Karine Lejeune, porte-parole de la Gendarmerie nationale, est également à mes côtés. Bonjour, merci infiniment de votre présence. On imagine évidemment que pour vous, pour la gendarmerie que vous représentez, mais aussi à titre personnel, c'est un moment particulier.
Pourquoi c'était le moment le plus dur de votre carrière ?
On était touchés en plein cœur par cette attaque terroriste, parce qu'on avait perdu l'un des nôtres dans des conditions qui étaient extraordinaire, c'est-à-dire un acte de courage et d'héroïsme, qui était absolument incroyable.
On rappelle que donc le colonel Beltrame a donné sa vie pour sauver celle d'une otage, femme, qui était prise en otage par ce terroriste. C'était dans un supermarché de Trèbes.
C'est ça. Il s'est substitué à cet otage. Il lui a sauvé la vie. Il a perdu la sienne. Et c'est vrai que cet hommage national, il était difficile à plusieurs titres. Déjà parce que on enterrait l'un des nôtres, donc c'était déjà difficile en soi, parce que Arnaud faisait partie de ma promotion de l'EOGN, donc je le connaissais, on avait de très bons amis en commun, et je l'avais revu 2 ou 3 ans avant son décès à Paris. On s'était croisés, on avait échangé un petit peu, justement parce qu'on s'était pas vu depuis un moment sur nos différents parcours. Et puis ce qui était dur, c'est que sur le plateau, à l'écran, je voyais une partie de ma promotion. Il y avait les camarades qui étaient dans la cour, qui étaient là, et moi je pouvais pas y être. J'étais sur le plateau, c'était normal. C'était ma mission en tant que porte-parole de la gendarmerie, mais de voir passer le cercueil, ouais, c'était difficile.
Les agressions physiques sur les gendarmes ont augmenté de près de 80% en 10 ans. Plus 80% d'agressions physiques sur les gendarmes en 10 ans. Pourquoi ? Est-ce que vous comprenez, Karine Lejeune, le divorce de la police et de la gendarmerie avec une partie de la population ?
Je ne le comprends pas parce que nous représentons l'ordre. Nous sommes là pour protéger la population. Nous sommes là de temps en temps pour réprimer, mais nous réprimons que ce qui est illégal, ce qui est violent, ce qui ne doit pas être. Donc oui, j'ai un peu de mal parfois à comprendre finalement cet accès de rage, de violence qui parfois peut aller jusque la volonté de tuer. Un policier ou un gendarme, et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, les gendarmes comme les policiers étaient très conscients que leur métier était dangereux. Mais là, on est arrivé à des niveaux où effectivement il n'y a plus cette peur du gendarme ou ce respect de l'autorité. On a une partie, une petite partie, mais qui est de plus en plus radicale vis-à-vis des forces de l'ordre qui s'expriment et effectivement on voit des chiffres qui explosent sur les violences, sur les outrages à l'encontre des gendarmes.
Et il y a aussi de l'autre côté ce qu'on appelle les violences policières. C'est un terme que vous acceptez ou que vous trouvez inacceptable ?
Violence policière, c'est un terme inapproprié. Pourquoi ? Parce que la police, comme la gendarmerie, les forces de sécurité ont des prérogatives de coercition et elles l'appliquent. Après, elles l'appliquent dans un cadre juridique clair. S'il y a des débordements, ce sont des débordements individuels qu'il faut bien évidemment sanctionner très fortement. Ne serait-ce que pour être crédible et pour avoir des forces de sécurité intérieure irréprochables. Mais amalgamer tout ça en disant regardez, parce que un policier ou un gendarme a eu une attitude complètement inappropriée qui doit être sanctionnée, jeter l'opprobre sur les 250 000 autres, non, ça moi je ne l'accepte pas.
Karine Lejeune, vous êtes colonel de gendarmerie, donc vous avez été porte-parole nationale de la gendarmerie, mais vous avez aussi un domaine privilégié, si j'ose dire, en tout cas un dossier que vous connaissez bien, très bien, les violences faites aux femmes.
Papa, il tapait maman, alors on avait peur, on allait dans ma chambre.
À Jeun, 24 novembre, un homme étrangle sa femme
Toulon,
après leur séparation.
Toulon, 26 novembre, une femme est poignardée en pleine rue par
Strasbourg,
son mari.
Strasbourg, 8 janvier, le mari tue son épouse par
Tours,
arme blanche.
Tours, 2 mars, un médecin et sa maîtresse condamnés pour avoir empoisonné le mari.
Charleville, 15 mars, un père tue femme et enfant avant de se suicider.
Lyon, 4 avril, il étouffe sa concubine parce qu'elle voulait le quitter.
Mariama, 32 ans, était femme de ménage. Émilie avait 34 ans. Il y a aussi Guylaine, Catherine ou encore Anne. En France, tous les 3 jours, une femme est assassinée par son compagnon.
C'est vous, Karine Lejeune, qui êtes à l'origine de ce chiffrage-là. On est en 2006, il y a plus de 15 ans maintenant, et vous avez obtenu le premier chiffrage général des violences conjugales. Comment ça s'est passé ?
Effectivement, alors il y a pas que moi, on était deux. Je travaillais à l'époque et j'étais affectée à l'époque à la délégation aux victimes au ministère de l'Intérieur. Et avec un commandant fonctionnel de police, qui est Marie-Yvonne Chapalin, qui était très très impliquée au sein de la police nationale sur la lutte contre les violences faites aux femmes, on a décidé, parce que c'était une attente, parce qu'il fallait objectiver ce phénomène, de commencer à comptabiliser ce que nous on avait appelé à l'époque, pas encore les féminicides, mais les homicides au sein du couple. Comme on n'avait pas de logiciel informatique, on n'avait pas de base statistique qui nous permettait d'extraire ces données, on s'est mis en tête de les comptabiliser. Elle pour la police nationale et moi pour la gendarmerie nationale. Alors ça a été un travail de longue haleine, il a fallu qu'on détermine une méthodologie, que l'on appelle chaque service de police, chaque unité de gendarmerie pour faire sortir le dossier quand l'information nous remontait.
Quand vous êtes arrivé à ce chiffre-là, une fois que vous avez rassemblé tous ces éléments-là et que vous avez compté, vous avez fait un comptage final et vous avez dit, on en arrive à ce chiffre-là.
Oui.
Une femme tous les trois jours. Une femme tous les 3 jours en France. Ce chiffre d'ailleurs qui n'a pas bougé en 15 ans, c'est toujours le même,
oui.
Malheureusement. Vous avez réagi comment ? Vous étiez édifié ? Vous étiez ahuri ?
On était à la fois abasourdi par ce chiffre, parce que un pays comme la France, Il était pour nous impensable que l'on ait autant de faits d'homicides dans le cadre du couple, et puis parfois dans des circonstances très difficiles, très violentes. Hein. Donc ça, ça a été un choc pour nous, mais pour autant, ça a été quelque chose de très bénéfique, parce qu'enfin, on arrivait à objectiver ce phénomène.
Donc vous pensez que ça a accéléré les choses ?
Oui, en tout
cas. Même si les résultats sont toujours pas là. Quoique les gouvernements passent, les initiatives se font. Regardez, écoutez, on va écouter ce clip de campagne de sensibilisation auquel vous avez participé, mais enfin, les chiffres ne changent pas.
Face à une violence qui va être exercée à l'encontre d'une femme, le premier réflexe que doit avoir tout citoyen, c'est faire l'appel 17. Les forces de l'ordre, police, gendarmerie, sont très présentes sur le terrain, de jour comme de nuit. Pour autant, elles ne peuvent pas être présente derrière chaque citoyen, pouvoir anticiper n'importe quelle situation. Et donc, il est extrêmement important que chaque citoyen soit aussi nos yeux et nos oreilles et puisse nous faire remonter l'information dont nous avons besoin pour dissuader un passage à l'acte ou pour pouvoir intervenir et mettre fin à des violences.
Ça sert à quoi ces campagnes de sensibilisation ?
Ces campagnes de sensibilisation, elles sont là pour alerter le grand public. Enfin,
ouais, mais ça change quoi ?
Mais ça change beaucoup de choses.
Ah bon ?
Ça change beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, sur le département de l'Essonne, on a lancé une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes en utilisant les supports du quotidien. Les supports du quotidien, c'est les fourreaux de baguettes de pain et les pochettes de médicaments dans les pharmacies.
Oui.
On les a mis en place et on a questionné, en sortant des boutiques, certaines personnes. On a rencontré des anciennes victimes qui nous ont dit « Ah, mais ça, c'est franchement très bien parce que on aurait eu les numéros de téléphone, on aurait eu l'information pour savoir vers qui se tourner. » Et puis, on a eu des personnes qui n'étaient pas confrontées à ces difficultés qui nous ont dit « C'est très bien parce que ça va finalement mettre la lumière sur quelque chose que l'on ne connaît pas et le jour où, malheureusement, on a quelqu'un dans notre entourage qui est confronté en ça, on saura quoi faire. »
Oui, c'est ce que dit Marlène Schiappa, mais voyez, depuis 2 ans, on n'a jamais autant parlé des violences faites aux femmes. Avec le Grenelle organisé par Édouard Philippe, ça n'a pas changé les chiffres, ça y est même
si,
pire.
Si, ça a changé les chiffres, ah oui, bon c'est pire. Ça a augmenté le nombre de plaintes. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Augmenter le nombre de plaintes, c'est de fait faire réduire le chiffre noir.
Le problème, pendant longtemps, ça a été que les femmes n'étaient pas écoutées quand elles allaient au commissariat. On leur disait « Merci madame, revenez quand il vous frappera à nouveau ». Ou alors on prenait leurs plaintes et il se passait rien. Il y a eu un vrai problème au niveau des policiers, au niveau des gendarmes, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas entendu ces femmes pendant des décennies.
Ils n'ont pas été formés aussi pour ça. Et ce qu'on entendait des associations, c'était, oui, effectivement, les policiers, les gendarmes, ils accueillent mal, ils savent pas faire, etc.
Oui, ce qui était vrai.
Ce qui était vrai, mais il y a eu un travail énorme, et même les associations le reconnaissent, il y a eu un travail énorme en 15 ans, puisque moi, ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet, qui a été fait.
Aujourd'hui, vous le voyez vraiment dans toute la France, quel que soit le commissariat, quand vous allez porter plainte, globalement, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, c'est... Les femmes sont entendues.
Oui, les dispositifs sont connus. On a des permanences d'associations dans les commissariats ou dans les gendarmeries. On a des intervenants sociaux. Les gens sont formés depuis l'école. Les gendarmes sont formés depuis l'école et continuent à être formés sur le terrain.
Karine Lejeune, la révolution MeToo qui a explosé il y a 2 ans et demi de cela, toutes ces femmes qui se sont mises à parler, à raconter qu'elles avaient été harcelées, qu'elles avaient été agressées sexuellement, est-ce que ça vous a étonné ?
Alors moi non, mais pour en avoir discuté dans un milieu professionnel où j'ai beaucoup d'hommes avec moi, eux ça les a un peu surpris. Parce que j'ai eu des conversations avec certains de mes camarades ou certains chefs à qui j'ai dit, mais qui m'ont dit non c'est pas possible, c'est pas à ce point-là. Et je leur ai dit, mais vous avez des filles, vous avez des sœurs, vous avez des femmes, jamais vous leur avez posé la question, mais vous croyez quoi ? Vous croyez qu'on le vit pas tout ça tous les jours ? Les femmes, je pense que ça les a pas surprises. Mais pour certains hommes, ça a été un vrai déclic, une claque pour certains. Parce qu'ils ne savaient pas forcément ce que pouvaient vivre les femmes au quotidien.
Diriez-vous, à l'aune de vos années d'expérience, Karine Lejeune, diriez-vous que les hommes sont fondamentalement plus violents que les femmes ? Ou simplement qu'ils s'autorisent davantage à exprimer leur violence que les femmes ?
Moi, je dirais qu'ils l'expriment davantage. Il l'exprime davantage et d'ailleurs, finalement, dans l'inconscient collectif, on le ressent comme ça. c'est voilà, il pète un plomb finalement, oui, mais c'est un homme, c'est un peu normal. Une femme qui pète un plomb, c'est immédiatement une hystérique, immédiatement voilà, elle a des troubles psychologiquement ou psychiatriquement, elle est voilà, elle a un problème. Je pense que c'est beaucoup plus toléré pour les hommes, et du coup, la société le rend plus tolérable. Et ça, effectivement, c'est une vraie difficulté.
Je demande à chaque femme puissante de choisir une chanson qui leur parle de la puissance et des femmes. Vous avez choisi ça.
Ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, eh ben, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton port.
Boire du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçons, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur.
Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine.
Pendant 24 heures de Grand Corps Malade, pourquoi ce choix ?
Parce que je trouve cette chanson assez drôle, assez juste, et parce que voilà, pendant 24 heures, c'est intéressant de se poser la question, si moi pendant 24 heures j'étais un homme, qu'est-ce que je ferais ?
Alors ?
Je crois que j'aimerais savoir ce que l'on peut ressentir quand on est un homme et qu'on fait l'amour à une femme.
Ah.
Je crois que c'est ce que j'aimerais savoir.
Votre mari est informaticien, Karine Lejeune. Vous dites jamais je n'aurais eu un tel parcours sans lui. Pourquoi ?
Ah ben parce que très clairement il m'a toujours soutenue, il a toujours été présent, y compris avec les enfants. Pour le coup, on est un couple très équilibré, on est un couple où il n'y a pas de compétition.
Équilibré à votre avantage. Il a pris du retard dans sa carrière pour moi, dites-vous.
Oui. Parce que c'est lui qui a pris le congé parental à temps partiel quand j'étais en poste de commandement et que nous avions notre premier garçon. Et c'est là que voilà, on parle souvent de la difficulté pour les femmes de gérer la vie familiale, mais pour les hommes c'est pas toujours simple parce que son patron l'a très mal pris. Il a été à deux doigts d'essayer de le mettre à la porte. Il a pris un peu de retard forcément dans ses perspectives de carrière.
Il n'était pas jaloux de votre carrière ?
Jamais. Jamais. Et même lorsque la carrière aurait pu poser des contraintes familiales fortes, quand j'ai été nommée porte-parole, je l'ai appelée et je lui ai dit bon bah je viens d'être nommée porte-parole de la gendarmerie. Autant dire qu'il va falloir élargir le temps de présence de la nounou parce que là très clairement
je serai jamais là.
Ça va être compliqué au niveau des horaires et j'attendais une petite remarque en disant ah ouais mais bon comment on va faire. Et la seule chose qu'il m'a dit ah c'est génial mais c'est pas grave on va s'arranger.
Ah vous avez de la chance.
Ah non mais j'ai une perle très clairement.
Il est féministe en fait votre mari.
Complètement. Il est
autant vous pareil que vous.
Et en tout cas très attentif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la façon dont on peut lutter contre les stéréotypes, à la façon dont on peut élever nos garçons.
Alors justement, comment vous les élevez vos deux garçons? Vous leur achetez, alors vous leur achetez autant indifféremment des jouets de filles que de garçons, c'est vrai ça?
En tout cas, je leur achète ce qu'ils aiment. Alors quand ils étaient petits, ils ont voulu une poussette.
Et ils ont eu leur poussette.
Alors elle était bleue, donc ça allait bien. Ils ont eu une cuisine parce qu'ils aimaient jouer à la dinette. Ils ont plutôt le côté commando maintenant, mais très clairement, pour moi, ça ne fait pas de distinction.
Ils sont fiers que leur mère soit colonel de gendarmerie ou ils s'en fichent?
Ah non, ils sont fiers. Hein. Ils sont fiers et c'est drôle parce que quand j'ai pris mon commandement, il y a naturellement une passation entre l'ancien commandant de groupement et le nouveau lors d'une cérémonie militaire. Et une fois que votre grand chef, le général, vous donne le commandement, vous vous adressez à la troupe qui est sur les rangs et vous donnez vos ordres. Et quand on a terminé, mon petit qui avait 5 ans est venu me voir en disant « Maman, c'est quand tu as parlé aux gendarmes que j'ai compris que c'était toi la chef. » Voilà. Et j'ai trouvé ça adorable. Et pour eux, c'est... Voilà, maman, elle est colonelle. Bah, c'est elle qui commande.
Karine Lejeune, quelques questions de fin pour terminer. Une femme chef d'état-major des armées, c'est de la science-fiction?
Ah non, je pense pas du tout. Non. Bientôt, peut-être.
Qu'est-ce qui vous indigne?
La violence à l'endroit des enfants. Ça, c'est quelque chose... Ça me rend folle. Ça m'insupporte, ça me fait mal, j'ai l'impression...
Vous dites d'ailleurs que vos enfants vous ont un peu fragilisé, c'est vrai, ça?
Oui. Alors,
vous ont rendu trop sensible?
Ils m'ont rendu un peu sensible, et surtout sur ces problématiques-là. Quand ça touche les enfants, j'ai l'impression que ça touche mes enfants. J'ai l'impression de ressentir la douleur que pourraient avoir mes enfants, et ça, c'est insupportable.
La dernière fois que vous avez pleuré?
C'est une bonne question. C'était peut-être à la mort d'Arnaud, c'est possible.
D'Arnaud Beltrame.
Ouais.
Liberté, égalité, fraternité, vous préférez quoi?
Fraternité et sororité.
Pas mal, c'est pas mal pour le mot de la fin. Merci Madame la Colonelle.
Merci beaucoup, Léa Salamé.
Merci de nous avoir reçus ici.
Roxane, The Police. Merci d'avoir écouté Femmes puissantes. À la préparation, Paola Puerari, Marie-Elisabeth Jacquet et Maud Ventura. À la prise de son, Yann Fressy. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Et à la réalisation, Anna Buy. Bon samedi à toutes et à tous sur France Inter. Et demain, notre invitée, c'est elle.
Quand j'ai été élue en 2001, je me suis dit à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, les filles, là, on est là, on arrive presque par effraction, on nous tolère, on fait joli dans la galerie et on a énormément de problèmes pour pouvoir être crédible et réaliser ce qu'on a à faire. Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être pour m'accomplir, être heureuse, faire des choses qui me correspondent? Thank you.